l'invité du dimanche,
en partenariat avec Midi Libre,
sur 48FM,
9h30 et 18h30.
Henri Mouisset, j'ai 65 ans et je suis retraité de l'éducation nationale.
Pour Midi Libre, Fabien Isbach.
Alors, vous venez de sortir un livre sur la peste en Gévaudan de 1720 à 1722. Vous êtes plutôt connu comme étant un historien des Camisards. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ce sujet ?
Tout simplement parce que dans les années 70, j'ai acheté une petite maison secondaire, une résidence secondaire dans un village qui s'appelle Corréjac. Et lorsque Robert Seguin m'a vendu sa maison, elle était propriété de Robert Seguin, la voûte de cette petite maison était toute noire. Alors je lui ai dit, mais cette maison a pris feu. Il me dit, non, c'est la peste. Alors j'ai blanchi la voûte, mais j'ai gardé derrière l'oreille, ça m'a interpellé, comme on dit, et je me suis aperçu, quelques années plus tard, que la peste avait démarré dans le village de Corréjac, effectivement, que le village avait été brûlé pour cause de désinfection. Ensuite, les archives départementales, comme j'étais enseignant, m'ont demandé avec mes élèves de faire un concours sur les grandes épidémies organisées par les archives nationales. On a obtenu le premier prix. On a été reçus à Paris. J'ai pu accéder à des tas de documents. Bref, ça se passait en 93, ça, ce concours. Depuis, j'ai digéré tout ça. Et ces 10 dernières années, j'ai mis à plat toutes mes recherches, tous mes travaux, d'où ce livre, La peste en Gévaudan, qui est sorti la semaine dernière. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Voilà.
Que trouve-t-on dans ce livre ? Donc c'est plutôt un condensé scientifique du nombre de morts, du nombre de victimes, ce genre de choses, ou il y a une étude derrière plus approfondie de la population de l'époque ?
Alors ce livre a plusieurs objectifs. Souvent, quand on vise plusieurs objectifs, on n'arrive pas à les atteindre, mais j'ai tout fait en tout cas pour essayer de les atteindre. Alors un, il y a une chronologie événementielle, c'est-à-dire justement l'arrivée du bacille de Yersin à Corréjac, au-dessus de la Canourgue. Et puis ce bacille, il a voyagé, il est arrivé à la Canourgue, il est arrivé à Morgeol, il est arrivé à Mende. En définitive, il y a eu 5500 morts, quelque chose près. Les autorités locales ont été alertées, bien sûr. Il y a eu tout un tas de précautions qui étaient prises. Il y a eu le blocus du Gévaudan. Mais surtout, la cour a eu très peur qu'après Marseille, le Gévaudan, la peste progressivement arrive jusqu'à Paris, où ça en approche. Donc on a fait venir ici deux médecins de la cour, le moine et Bailly, qui, à travers leur courrier, nous ont donné des mines d'informations. Donc au niveau événementiel, chronologie, le bacille de Yersin, en Gévaudan, etc., j'ai trouvé des tas d'informations. Mais parallèlement à ça, je me suis beaucoup intéressé aux mécanismes de transmission de la maladie. Et à partir du moment où j'ai lu le livre de Frédéric Audouin Rousseau, elle est plus connue en tant qu'auteur de romans policiers, Fred Vargas. À partir du moment où j'ai lu son bouquin qui s'appelle « Le rat, la puce, l'homme, les chemins de la peste », un bouquin scientifique écrit par un chercheur du CNRS, vous voyez le genre de livre, qui est difficile à lire, mais j'ai réussi à le lire, j'ai à peu près tout compris, mais surtout j'ai compris que dans mes recherches historiques, il fallait que je revoie ma copie. J'ai revu ma copie. En tant qu'historien, j'ai donc, abondé dans la thèse de Frédéric Audouin Rousseau, qui désigne la puce du rat comme étant le principal vecteur de la maladie. Donc j'explique tout ça. C'est aussi une petite thèse pour donner raison, entre guillemets, à Fred Vargas, Audouin Rousseau. Mais je me suis aussi beaucoup intéressé. J'ai vu des profs de médecine à la fac de Montpellier pour essayer de comprendre les comportements des médecins de l'époque, ou du moins, quelle était leur connaissance de la maladie, et pourquoi faisaient-ils les saignées, est-ce que c'était efficace, pourquoi tel remède, pourquoi tel parfum, voilà. J'ai essayé de comprendre, j'ai lu des thèses de médecine du XVIIIe siècle, donc vous voyez, mon livre, il est à la fois événementiel, on suit le bacille de Corréjac jusqu'à Mende, mais en même temps, il est une sorte de travail scientifique pour comprendre et élucider ce phénomène de transmission qui est relativement complexe.
Vous parliez de Fred Vargas, elle a signé la préface de votre livre. Que raconte-t-elle dedans ?
Alors, bon, premièrement, elle a lu mon manuscrit, parce que d'habitude, quand on fait une préface, on lit le travail. Alors, elle essaie d'attirer le lecteur sur cet aspect grande importance de la peste dans l'histoire de l'humanité, en fait, l'histoire récente du Moyen-Âge, pour moi, c'est relativement récent. Et la peste du Gévaudan étant la dernière épidémie, elle dit dans la préface que toutes ces épidémies de peste ont marqué au fer rouge toute notre histoire. Voilà. Et donc mon livre, justement, qui se veut très détaillé, méticuleux, comment dirais-je, est une pierre de plus à la compréhension de l'importance, du moins, il surligne l'importance de cette épidémie dans notre histoire gévaudanaise. Et tout ce qui s'est passé autour de cette épidémie, en particulier le blocus, voilà. Donc, elle met en valeur mon travail, prouvant qu'il est une pierre de plus à cette compréhension et à la mise en valeur de l'importance de cette maladie dans les siècles des siècles.
Justement, est-ce qu'il y avait des spécificités à la peste en Lozère? Est-ce que ça s'est passé différent en Lozère d'autres endroits, tout simplement?
Pas du tout. Le bacille de Yerzin, c'est le bacille de la peste. Donc la transmission de l'épidémie s'est produite exactement comme à Marseille, quelques semaines ou mois avant, et très certainement comme au Moyen-Âge, hein, le vecteur étant le rat, la puce et le bacille de Yerzin, il faut dire Yerzin, j'ai tendance à dire Yerzin, c'est Yerzin. Voilà les trois, le rat étant le porte-avions, si je puis dire, des puces, qui se contaminent sur les rats et qui ensuite contaminent les hommes. Voilà, alors ça a toujours existé au Moyen-Âge, à Marseille, en Gévaudan, pas de spécificité auxériennes.
Vous allez participer à des interventions à la faculté de médecine de Montpellier. Il y a d'autres interventions de ce genre dans les semaines à venir?
Écoutez, c'est la première fois qu'on me sollicite au niveau d'une fac de médecine à Montpellier, puisque j'ai travaillé avec M. Dedé et M. Roussel. Mais je crois qu'il m'invite parce que mon livre est édité tout juste après celui de M. Deville, le prix Femina. Donc je vais quelque part prendre le suivi de Yersin, puisque ce livre raconte en détail la vie de ce personnage extraordinaire. Les autres invitations sont plutôt des invitations de sociétés culturelles ou de sociétés savantes pour l'instant. Mais le livre vient de sortir, donc j'ai 3 ou 4 invitations. J'en suis au tout début là, du livre, du lancement du livre.
Est-ce que finalement, vous ne pensez pas que c'est un sujet, la peste, qui a été un peu oublié peut-être, surtout en Gévaudan, avec la bête du Gévaudan qui arrive quelque chose comme 40 années après à peine?
Alors, je crois qu'il y a un historien américain, hein, je vais en revenir au Gévaudan, à la Lozère, il y a un historien américain qui a fait tout un travail et qui démontre, mais c'est le bon sens, c'est tout à fait quelque chose de facile à comprendre, c'est que nous sommes les survivants de gens qui ont survécu aux terribles épidémies de peste du Moyen-Âge. Nos ancêtres ont été les plus résistants, sinon nous ne serions pas là. Et en Gévaudan, il a dû se passer quelque chose de similaire, c'est-à-dire les Gévaudanais et les Lozériens qui ont survécu, ont donné naissance à des gens qui... Enfin, ce sont les ancêtres des Lozériens actuels. Je voudrais quand même dire que tout le Gévaudan n'a pas été touché. Ils ont pris des précautions immédiates. Ils ont réussi à circonscrire. Enfin, c'est aussi mon livre, ça. Hein. Ils ont réussi à maintenir l'épidémie grâce à des blocus. C'est assez sophistiqué à expliquer, mais ils ont réussi à faire en sorte que ça s'arrête ici. Voilà. Mais grande importance de l'épidémie dans l'histoire gévaudanaise, quoi. Elle a marqué les esprits. Hein. Elle reste toujours, quoi, vivace dans l'inconscient collectif.
Comme une grande peur, comme la bête du Gévaudan, au final.
Oui. Mais la bête du Gévaudan, il y a un côté pour les Marvejolais, pour les Canourguais, pour les Mandois. C'était là-haut, c'était du côté de Sogues, donc c'était dans les forêts, etc. Alors que la Canourgue, Marvejols, Mende, ont été Saint-Léger-de-Peyre ont été marqués au fer rouge par l'épidémie. Je ne peux pas trop rentrer dans tous les détails, mais il s'est passé des choses absolument extraordinaires au niveau des populations. Chaque fois qu'il y a des événements extraordinaires, il se passe toujours des... Il y a le corollaire extraordinaire autour d'événements exceptionnels.
Vous vous intéressez toujours forcément à l'histoire des camisards. Vous allez retrouver bientôt peut-être d'autres types d'animations du côté d'Alès.
Voilà. Nous allons essayer, mais c'est très bien parti puisque les travaux ont commencé, etc. Le financement, nous l'avons en partie obtenu parce que l'agglomération d'Alès est partie prenante de ce projet. La pièce La nuit des camisards, écrite par Lionel Astier, mis en scène par Gilbert Rouvière, qui est un excellent metteur en scène, va être produite tout l'été à Alès, au-dessous du mont Ricato, c'est-à-dire c'est au-dessus de la mine Témoin, du 15 juillet au 16 août. Alors c'est un spectacle à ne pas manquer, parce que la première fois que je l'ai vu, vous savez, les historiens, on va dans les archives, on est des rats, on fouille les archives, mais on cherche à se mettre dans la peau des personnages qui ont vécu les événements que l'on lit, ou les témoignages que l'on lit. Eh bien là, la première fois que j'ai assisté à la nuit des camisards, j'étais rentré dans une espèce de sas, et j'étais 3 siècles en arrière, avec les odeurs de poudre des fusils, avec une certaine peur au début du spectacle, avec l'appréhension de me faire arrêter, vous voyez le genre, immersion totale dans le passé.
Je vais vous demander tout simplement maintenant de vider vos poches. De dire ce que vous avez dans vos poches.
Dans mes poches, j'ai mon téléphone portable, c'est tout.
D'accord. Et de choisir une musique.
Ah, alors là, Mozart, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour moi le musicien des musiciens. Et padam, papam, papam. Ce passage-là me donne les frissons rien que d'en parler, alors quand je l'écoute, je suis sur un nuage, voilà.
Thank you.
Henri Bousset. Merci.